Vous écoutez RFI, la radio du monde, il est 21h en temps universel et à Grand Bassam chez Sagalov, 22h à Paris chez Sagalov. Sagalov qui était notre invité et le journal est présenté par Christophe Paget. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Claudicière, bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal, le Hamas annonce qu'il rendra 4 corps d'otages israéliens ce jeudi et qu'il va en libérer 6 ce samedi. De son côté, le Liban compte saisir le Conseil de sécurité. Israël ne s'est pas retiré de tout le sud Liban. Beyrouth parle d'occupation. Rencontre russo-américaine ce mardi à Riyad. Les deux pays se sont mis d'accord pour nommer des négociateurs pour le règlement de la guerre en Ukraine. Et le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a répété l'opposition de la Russie à l'idée de soldats européens pour garantir le respect d'une éventuelle fin du conflit. Je ne suis jamais intervenu auprès des enquêteurs ou de la justice dans l'affaire de violences sexuelles au sein de l'école catholique Beit Haram. C'est ce qu'a dit ce mardi le Premier ministre français François Bayrou, qui a contre-attaqué en visant le gouvernement de Lionel Jospin à la fin des années 90. Le Hamas libérera samedi 6 otages israéliens retenus dans la bande de Gaza, mais aussi ce jeudi les corps de 4 otages. Ce sont les premiers à être remis à Israël depuis le début du cessez-le-feu. Parmi ces victimes, il y aurait des membres de la famille Bibas, enlevés avec ses 2 jeunes enfants. Envoyé spécial à Jérusalem, Pierre-Olivier.
Israël confirme qu'il y aura bien 4 corps qui lui seront remis jeudi, mais sans donner davantage de détails. Un peu plus tôt dans la journée, pourtant, le Hamas a précisé que les 2 enfants Bibas et leur mère feraient partie de ces 4 corps. Le père, lui, a été libéré vivant il y a quelques semaines. Prudence pour l'instant du côté de la famille qui, dans un communiqué, assure qu'elle n'a reçu aucune confirmation et que le combat continue jusqu'au dernier moment. De son côté, Israël s'organise déjà pour ce premier retour de corps sans vie depuis le 15 janvier. Les dépouilles seront, dès leur réception, transférées à l'Institut médico-légal de Tel Aviv et ce n'est qu'une fois les identifications faites que les noms seront transmis aux familles. Samedi, 6 otages seront libérés et à nouveau, 4 corps seront rendus la semaine prochaine, juste avant la fin de cette première phase du cessez-le-feu. La deuxième phase, elle devrait débuter le 2 mars et les pourparlers commencer dès cette semaine. Annonce faite aujourd'hui par le ministre israélien des Affaires étrangères qui exige une démilitarisation totale de la bande de Gaza. Pierre-Olivier, Jérusalem, RFI.
Israël, par contre, ne s'est pas retiré de tout le sud Liban, contrairement à ce qui avait été conclu en novembre dernier. Dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu, il a maintenu son armée sur 5 positions, qualifiées de stratégiques. Le Liban dénonce une occupation et annonce qu'il va saisir le Conseil de sécurité. RFI, minuit 2, à Riyad. Riyad où Russes et Américains se sont donc rencontrés ce mardi et ils se sont mis d'accord pour nommer des négociateurs pour le règlement de la guerre en Ukraine. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est dit convaincu que la Russie voulait s'engager dans un processus sérieux pour mettre fin à la guerre, tout en soulignant qu'un accord sur l'Ukraine devait être acceptable pour tous et que les Européens devaient être à la table à un moment donné. De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères a dit être persuadé que les États-Unis commencent à mieux comprendre la position de Moscou, notamment sur l'Ukraine. Sergueï Lavrov a en tout cas répété l'opposition de la Russie à l'idée, validée par les États-Unis, de soldats européens pour garantir le respect d'une éventuelle fin du conflit.
Nous avions expliqué aujourd'hui à nos interlocuteurs que nous avions apprécié que le président Trump, dans plusieurs de ses discours, ait été le premier parmi les dirigeants occidentaux à dire clairement que la potentielle entrée de l'Ukraine dans l'OTAN était l'une des principales causes des événements en cours. C'est l'une des plus grandes erreurs de Biden et de son administration. Et si Trump était président, il n'aurait jamais permis que cela se produise. À cet égard, nous avons donc aussi expliqué aujourd'hui à nos collègues que le président Poutine a souligné à plusieurs reprises que l'élargissement de l'OTAN, l'intégration de quelque manière que ce soit de l'Ukraine dans l'Alliance Nord-Atlantique, constituait une menace directe pour les intérêts de la Fédération de Russie. Une menace directe pour notre souveraineté. Et c'est pourquoi l'apparition de troupes des forces armées des mêmes pays de l'OTAN sous le drapeau de l'Union européenne ou sous des drapeaux nationaux ne change rien à cet égard. Cela est bien sûr inacceptable pour nous.
Sergueï Lavrov, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui dénoncé cette rencontre russo-américaine à Riyad lors d'une visite en Turquie, d'où il a appelé à des pourparlers équitables incluant l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Turquie. Pour ce qui est de la réunion de pays européens qui a eu lieu hier à Paris, le Premier ministre britannique Keir Starmer était présent. Keir Starmer qui prend depuis la semaine dernière des positions de plus en plus vocales vis-à-vis de l'administration américaine, en particulier sur le volet ukrainien. Keir Starmer qui espère devenir un pont entre les États-Unis et l'Union européenne. À Londres, la correspondance d'Emeline Vin.
Tout en appelant les États-Unis à apporter des garanties pour la paix en Ukraine lundi soir, Keir Starmer se rapproche de la position américaine sur les dépenses militaires.
Nous autres Européens devons en faire plus. La répartition des responsabilités n'est pas un problème nouveau, mais il devient plus pressant. Nous devons accroître nos dépenses et nos capacités.
Seulement, cette tentative de médiation a peu de chances de trouver écho à la Maison-Blanche, explique Margaret Macmillan, historienne des relations internationales à l'Université d'Oxford.
C'est totalement illusoire. L'administration Trump ne croit pas du tout à une relation spéciale avec le Royaume-Uni. Trump respecte ceux qui lui tiennent tête. Je ne suis pas sûr qu'on puisse gagner en tentant d'être conciliant.
Pour son confrère Timothy Gartonash, le Royaume-Uni devra choisir diriger la défense européenne ou entretenir de bonnes relations avec Washington.
Si nous sommes exemptés de droits de douane alors que les Européens s'y voient soumis, nos amis européens vont nous rétorquer que nous ne perdrons pas d'argent avec Trump quand nous lui demanderons de nous accorder des contrats militaires et de renforcer nos relations.
Les deux historiens considèrent l'Italie de Giorgia Meloni mieux placée pour faire le pont entre Europe et États-Unis. Emeline Van Londres, RFI.
En RDC, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, poursuivent leur offensive dans l'est du pays. Après avoir pris la ville de Bukavu, dans le sud Kivu, le week-end dernier, les rebelles sont arrivés dans la localité de Kamanyola, à 60 km au sud de Bukavu. Des affrontements ont eu lieu aujourd'hui, en fin d'après-midi, entre rebelles et forces burundaises, alliées à l'armée congolaise, qui se trouvait à Kamanyola. Au Soudan, les attaques menées par les paramilitaires des FSR ces trois derniers jours dans le sud du pays ont fait plus de 200 morts, selon un collectif d'avocats soudanais. Exécutions sommaires, enlèvements, pillages, deux villages de l'état du Nil Blanc ont été ciblés selon cette même source. RFI 22h07 à Paris. François Bayrou n'est jamais intervenu, ni de près ni de loin, auprès des enquêteurs ou de la justice dans l'affaire de violences sexuelles au sein de l'école catholique Bétaram. C'est ce qu'a dit le Premier ministre français lors de la séance des questions à l'Assemblée. Par contre, il a contre-attaqué en visant le gouvernement de Lionel Jospin, affirmant que le procureur général a tenu au courant la chancellerie et donc la ministre de la Justice de l'époque, Elisabeth Guigou, et soulignant que devant un signalement aussi important, la ministre de l'Éducation, Ségolène Royal, à l'époque, avait forcément été elle aussi tenue au courant. Ségolène Royal qui a réagi, elle envisage une action pour dénonciation calomnieuse. Le quinquennat sera écologique ou ne sera pas. C'était la promesse d'Emmanuel Macron en 2022. Il est alors candidat en campagne pour un second mandat présidentiel. Trois ans plus tard, coup de canif dans l'ambition environnementale et climatique de l'exécutif, l'annonce de la démission d'Antoine Pélion. Le secrétaire général à la planification écologique rend son tablier alors que les récents résultats français en la matière sont mauvais. Pas de quoi rassurer Anne Bringot, la directrice des programmes du réseau Action Climat.
Les émissions de gaz à effet de serre en France ont repris une hausse au troisième trimestre 2024. Donc concrètement, les mesures qui n'ont pas été mises en œuvre ont occasionné une nouvelle hausse des émissions de gaz à effet de serre avec un impact malheureusement néfaste pour le climat. On est donc des reculs sur les mesures politiques. En revanche, quand on regarde l'opinion publique, la préoccupation pour les sujets environnementaux ou pour le changement climatique reste très importante. Il y a par contre le personnel politique qui considère que maintenant c'est plutôt un sujet sur lequel on doit taper pour des raisons dites de simplification, alors qu'en fait soutenir la transition écologique, ce n'est pas créer plus de paperasse, hein, c'est très différent, c'est simplement effectivement mettre en cohérence des politiques pour avoir une alimentation plus saine, pour avoir des moyens de se déplacer avec moins de pollution. Donc ce décalage entre les attentes de la population et le personnel politique est très préoccupant.
Anne Bringot, jointe par Simon Rosé. C'est le champion olympique de ski, Edgar Gros-Piron, qui sera à la tête du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030. Ça se passera dans les Alpes françaises. Cette annonce intervient après le retrait du biathlète Martin Fourcade, on s'en souvient, début février, et après aussi des mois de retard. L'annonce était à l'origine prévue pour l'automne dernier. RFI 22h10 à Paris, 21h10 en temps universel. Prochain journal dans 50 minutes.